Bonjour à vous, chers auditeurs de Radio B, et bienvenue dans cette émission de novembre, qui n'est pas sans rapport avec les deux précédentes, puisque le poète dont nous allons parler aujourd'hui est, comme Ilari Voronca, d'origine roumaine. Mais le dénommé Radu Bata est, lui, un poète d'aujourd'hui qui a été professeur de français en Roumanie jusqu'en 1990, date à laquelle il est venu s'installer en France. Il est devenu enseignant de français près de Grenoble et a publié plusieurs ouvrages de poésie dont les titres sont à eux seuls tout un programme. Mine de petit rien sur un lit à baldaquin, Le filtre des nuages et autres ivresses, Survivre malgré le bonheur. Et c'est plus particulièrement à ce dernier ouvrage que nous allons nous intéresser aujourd'hui, ainsi qu'à une anthologie de poètes roumains constitué par Radu Bata, avec des textes qu'il a lui-même traduits du roumain, un ouvrage sorti au début de cette année 2020 qu'il a intitulé, et cela ne nous surprendra pas, « Le blues roumain ». Il m'a donc paru intéressant de juxtaposer, depuis septembre, différents aspects de la poésie roumaine, car bien qu'il s'agisse d'auteurs différents, ayant chacun leurs caractéristiques propres, il y a, à mon sens, une parenté dans le ton de ses œuvres, un mélange de tendresse et de dérision, un regard un peu nostalgique, on pourrait dire, et c'est peut-être cela, le blues roumain. Outre leurs racines communes, il y a autre chose qui réunit Ilari Voronca et Radu Bata. C'est leur prédilection pour les nuages. En effet, comme son aîné, Bata en parle très souvent dans ses poèmes, comme dans celui-ci qui est extrait, comme le seront les suivants, de « Survivre malgré le bonheur ». Se payer la tête du pôle monétaire. Il est encore temps de tout prendre en dérision, les hommes et les gouttes de pluie, les femmes et les flocons de neige. Il est sain de rire des étoiles du marché, des plans à trois des astres du top 50, des solos de guitare de la lune, des plans d'épargne de l'arc-en-ciel. On peut même prendre en ballon le globe, les ambitions du soleil et les sourires niais de l'univers tant qu'on y est. Mais il ne faut jamais se moquer des nuages qui nous habitent. Alors, si Voronca et Bata sont tous deux fascinés par les nuages, ceux du ciel et ceux qui nous habitent, vous vous êtes rendu compte que le style des deux poètes n'est pas tout à fait le même. Radu Bata se définit quant à lui comme auteur de poésettes, et les poésettes sont pour lui des poésies sans prise de tête. Autrement dit, qui se veulent moins académiques, moins sérieuses que les poésies habituelles. D'où lui vient ce parti pris ? Eh bien, justement, de son activité d'enseignant, dans laquelle il a senti que l'intérêt pour la poésie était loin d'être acquis pour une majorité de ses élèves et que c'est en misant sur une forme de légèreté facétieuse qu'il allait pouvoir les amener à voir la poésie autrement. Et il a bien raison, car lorsqu'on arrive à mettre en valeur l'aspect ludique des poèmes, les jeunes adhèrent à une forme littéraire qu'ils pouvaient considérer au départ comme éloignée de leur univers ou réservée à des spécialistes. Il le dit lui-même. « J'ai réussi à capter leur attention. Or, ce n'était pas gagné. Le petit roumain que je suis, venu leur faire des leçons de français avec mes gros sabots de paysan du Danube, vous imaginez. » Pour le dire autrement, Radu Bata aime jouer avec les mots, ainsi que le dit très bien Anne Vivier de la revue Racine. Ce qui saute à la figure, c'est l'amour absolu de Radu Bata pour les mots. Ce français qui n'est pourtant pas sa langue maternelle, il l'aime, le malmène, le tord dans tous les sens pour lui extirper tout le jus de ses tripes. On admire cette virtuosité, cette liberté de ton incroyable qui lui permet d'oser des rapprochements lexicaux les plus téméraires et farfelus. Mais ne nous méprenons pas, il ne s'agit pas là d'une poésie facile qui n'aurait d'autre but que d'amuser le lecteur. Si la prise de tête n'est pas mise en avant, il y a néanmoins l'art de la cacher, comme les fils de la couture chez un grand styliste. Et en lisant Radu Bhata, on peut penser à Jacques Prévert, Boris Vian, Raymond Queneau ou encore Jacques Roubaud, qui ont ce même esprit irrévérencieux, cette inventivité et cet habile mélange de légèreté et de gravité. Alors j'ai cherché une musique, elle aussi d'apparence légère, qui pourrait correspondre à cet esprit malicieux, et j'ai pensé à Eric Satie, dont l'originalité et l'humour m'ont paru faire écho à l'écriture de Radu Bhata. Nous allons entendre pour commencer une pièce à quatre mains issue de La Belle Excentrique, qui a pour titre « Valse du mystérieux baiser dans l'œil », un intitulé original qui se marie plutôt bien avec la forme d'esprit de Radu Bhata. Radu Bhata a un style très elliptique. Il a le sens de la formule, comme le prouvent ses titres de recueil, et par conséquent, il est aussi friand d'aphorismes. Vous en entendrez plusieurs au cours de cette heure, car il met souvent des aphorismes en exergue de ses poèmes. En voici par exemple deux qu'il a placés au tout début de son ouvrage. « En terrain hostile, le poète se fait dévorer par les vers. » Il est bon d'avoir l'esprit d'équipe, surtout quand tu joues seul contre tous. Les allusions aux nuages sont nombreuses au fil des pages. Alors, pourquoi Radu Bhata est-il particulièrement inspiré par les nuages? Eh bien, sans doute parce qu'il les trouve plus beaux à regarder que la réalité. Lui qui a plus volontiers la tête dans les nuages que les pieds sur terre, et peut-être aussi parce qu'il symbolise cette légèreté qui lui est chère et qui est présente aussi dans ce premier prélude du « Fils des étoiles » d'Eric Satie. Thank you.
Let's talk about sex.
Phrase en exergue. Cupidon a les dents du bonheur, mais il ne sourit jamais. Avec les gens, les choses sont claires seulement si tu sais ouvrir les pages de leur dictionnaire personnel. Avec les nuages, plus besoin de lexique personnalisé, tout le monde parle leur langue sans professeur. Il suffit de les regarder dans les yeux et de lire sur leurs lèvres le mot « amour ». La main dans le msnack. Phrase en exergue. Pétition pour la prolongation de l'état d'urgence amoureux. Un dimanche après-midi, quand les gens ont enfin suspendu leur guerre pour une sieste pépère et Dieu a pris une pause réparatrice, je me suis introduit dans le minuscule département de la poésie et j'ai créé le mouvement de solidarité avec les nuages, les amours et les cerises. Car les nuages, les amours et les cerises sont beaucoup trop éphémères. Ils passent comme des éclairs dans notre ciel de naissance. Mais Dieu a vite repris son travail et les gens leur bataille de toutes les minutes. Et le minuscule département de la poésie a été fermé pour manque de rentabilité. Cloudy Tango. Je vois les nuages, même quand le ciel est parfaitement bleu pour tout le monde, car les nuages se montrent toujours à ceux qui les serrent contre la poitrine. Mais ils se dissipent comme par miracle quand tu es dans mes bras, mon amour. Esprit gazeux, amour liquide. Il y a des poèmes qui te font l'effet d'une poule mouillée dans l'œuf. Il y a des hommes d'État qui ne sont pas en état. Il y a des mots d'esprit où l'esprit a été totalement annihilé. Il y a des sujets qui boivent la tasse même si leurs verbes sont à sec. Et puis, il y a des nuages capables de sortir des pommeaux de douche de leur chapeau. Une espèce kamikaze. Que se passe-t-il dans la tête des jeunes nuages pour qu'ils aillent jusqu'au bout de la terre trouver l'âme sœur? Peut-être sont-ils ainsi programmés génétiquement. Quand ils deviennent adultes et se rendent compte que l'amour n'est qu'une chimère céleste, ils se rassemblent en troupeaux gris et, de désespoir, ils commencent à pleurer toutes les larmes de leur corps. Évidemment, lorsqu'on est à cheval entre deux pays, entre deux cultures, c'est aussi quelque chose qui transparaît dans les questions qu'on se pose. Interrogé à ce sujet, Radu Bhatta répond ainsi. Un jour, c'est le Français qui est président et le Roumain Premier ministre. Le lendemain, c'est l'inverse. La cohabitation est équitable. À l'échelle de mon tout petit appartement, c'est pareil. Dans une pièce, il y a des livres français. Dans l'autre, des livres roumains. Je passe ainsi en seulement 2-3 pas de la France à la Roumanie ou vice-versa. Même en rêve, je passe d'une langue à l'autre dans un battement de cils. C'est dire comment on navigue entre les deux langues qui nous habitent, nous autres franco-roumains. Être bilingue, c'est avoir une double vie de son vivant. Les deux langues sont latines, mais le français semble plus raisonnable, cartésien, pendant que le roumain a le sang plus chaud et l'Orient dans les gènes. Le saut des mots germaniques intégrés par le français et la foule de mots slaves intégrés par le roumain donnent des couleurs différentes. de l'organisation alémanique jusqu'au fatalisme russe, le chemin est long. Voici 5 poèmes qui gravitent autour de cette double culture.
Un match décimal, France versus Roumanie. Je me suis toujours posé une question vitale. Quel système sociétal est moins bancal? Le monde ordinal, au calcul infinitésimal, ou le monde uninominal au bonheur minéral? Je me suis toujours demandé quel pays est plus fatal, la France et son pourcentage de cathédrales, ou la Roumanie et son folklore paranormal. Avec le temps, j'ai compris que l'incertitude est transversale et que la joie déborde de blessures collatérales. La gauche peut être abyssale, la syntaxe continentale et la droite pyramidale. Aujourd'hui, tout ça m'est égal, car maintenant je suis libre, libre comme un numéral échappé de l'asile grammatical. De quel bois est fait le sexe? C'était pire que les Capulet et les Montaigu. Leurs familles indo-européennes s'opposaient à leur amour. Les méridiens et les montagnes ne pouvaient guère admettre leur liaison. Les cartésiens ont carrément déclaré la chose impossible. Dans leur bunker, les nationalistes ont dénoncé le mariage blanc. Pourtant, défiant la logique, les vents et la géographie, la Seine et le Danube ont fait l'amour. Sur la table de Brancusi, dans le lit de Sioran, sur les chaises de Ionesco. Et la Seine a accouché des colonnes sans fin pour décorer le magasin de l'au-delà. Métec, phrase en exergue, beaucoup d'artifices et peu de lumière. Je me réveille en roumain après un rêve français, si ce n'est pas l'inverse. Je fais des allers-retours entre les deux langues, le temps que le café arrête ma terre de tourner. Et je me promène toute la journée dans ma ville bilingue. Je vois le Danube traverser les jeunes filles dans le jardin du Luxembourg. Je vois un camp de gitans émigrer au ciel pour retrouver la joie des aïeux. Je vois un mariage franco-roumain célébré dans un champ de lavande qui a poussé dans une cathédrale. Je vois Baudelaire boire une carafe d'eau-de-vie sur une terrasse des Carpates. Je vois, ici et là, des maisons hésitantes qui ont le mal du pays. Je vois une étrangère qui ressemble étrangement à la mer Noire. Je vois Sioran et Ionesco devisés à Bucarest entre les mains hardies d'un salon de massage. Je vois des ruelles en pente, aussi indécises que des gens apatrides. Je vois des chiffres et des lettres qui tombent de la tête des êtres mutants dans la tombe fleurie des illusions. Les mutants de l'apesanteur. Phrase en exergue. Je n'ai jamais quitté mon pays. C'est lui qui m'a quitté. Un pied ici, un pied ailleurs. Nous sommes des mille pattes voltigeurs. Une part ici, une part à part, nous ne sommes chez nous nulle part. Toujours prêts pour le vol à l'étage, nous sommes les enfants des nuages. La compagnie des spectres. Être franco-roumain, c'est un peu comme être bisexuel. On ne sait plus quel organe utiliser pour exprimer l'amour. On ne sait plus si coucher avec la Seine ou le Danube se fait à la maison ou pas. Être franco-roumain, c'est pratiquer le French kiss dans un château des Carpates avec un fantôme qui te ressemble et parle la langue de vérité avec des R roulés dans la farine. Thank you.
manière de double identité aussi pour ce morceau de piano à quatre mains d'Eric Satie intitulé « Marche franco-lunaire ». Radu Bhatta a un regard doux-amer sur notre monde, sur les relations interhumaines, et si son espièglerie l'emporte la plupart du temps avec des pieds de nez à la routine et aux artifices de ce monde, il y a néanmoins un fond de nostalgie dans sa poésie. Une nostalgie dans laquelle il puise peut-être l'énergie de tourner le dos à une réalité décevante, en lui préférant le rêve et en s'inventant un univers parallèle. En le lisant, j'ai l'image de quelqu'un qui cherche constamment des alternatives à l'ennui et à la résignation, que ce soit sur le ton de la plaisanterie ou celui d'une tendresse à fleur de peau. C'est donc entre ces deux pôles, espoir et désespoir, qu'il navigue dans son écriture, comme on pouvait s'en douter avec l'oxymore qu'il a choisi comme titre à son recueil, « Survivre malgré le bonheur », un titre qui annonce d'emblée le ton de tendre dérision qui caractérise ses poèmes. On peut évidemment interpréter cette formule de diverses façons. Pour ma part, j'y vois le refus d'un bonheur factice et la volonté de chercher ailleurs un sens à sa vie. Survivre deviendrait alors un acte de résistance. Ce qui me fait penser une fois encore à Voronka. Rappelez-vous le titre de son recueil, « La joie est pour l'homme ». Cet espoir, cette revendication qu'il portait dans les années 30 de voir les hommes de l'avenir s'acheminer vers une vie plus digne et un lien plus fraternel entre eux. Eh bien, presque un siècle plus tard, force est de constater que l'insatisfaction n'est pas moins grande aujourd'hui et que le bonheur matériel ne comble pas l'être humain. Et c'est sans doute cette insatisfaction-là et aussi le besoin de pointer les raisons d'espérer, comme celle de se révolter, qui nourrissent l'écriture de Radu Bhatta, comme vous allez pouvoir en juger à l'écoute des textes qui suivent, qui vous feront parfois sourire, vous laisseront peut-être aussi un arrière-goût d'amertume, mais surtout vous séduiront, je l'espère, par leur caractère fantasque.
Try a little tenderness, essaie un peu de tendresse. Phrase en exergue, est en bandoulière, ouest sur les paupières. Si tu veux un peu d'affection, sans complications sentimentales, regarde fixement l'horizon avant que le soir tombe. Tu auras l'impression d'entrer dans une carte postale illustrée que tu attends depuis un siècle d'un amour idéal. Le coucher du soleil est une machinerie douce qui t'aide à remonter le temps, à le restaurer. Un dictionnaire en apesanteur, sans adverbe de quantité, sans degré de comparaison, sans le mot fin. Plus tu t'approches du coucher, plus tu t'éloignes du monde déchaîné, du lever et de ses dommages collatéraux. À la différence des humains, ils ne te demandent rien, ne te posent jamais un lapin, et son sexe a le goût sincère d'une orange amère. L'état de ma nation. Phrase en exergue. Un seul devoir, affranchir les rêves comme une lettre d'amour. Dans mon pays d'élection, mon travail est de dissiper les nuages qui s'amassent sur ton front, de provoquer les sourires qui donnent à tes yeux cet éclat espiègle qui efface les frontières et renforce l'amitié entre les peuples. La géographie de mon pays d'élection suit les contours de tes lèvres. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je lui demande l'asile politique. Aux environs des émotions. Le monde marche sur des allumettes prêtes à prendre feu. Nous donnons un paracétamol à l'amour. Nous arrosons la pelouse de l'intranquillité, nous collons un sparadrap sur le chagrin et, de temps en temps, nous appelons les pompiers pour qu'ils nous donnent un verre d'eau. La mécanique du bonheur. La mécanique du bonheur est là, près de toi. Elle a toujours été là, dans son coin, même si elle ne t'a plus donné des signes de vie. Elle est peut-être étourdie ou bien elle s'est assoupie sur le canapé. Ne la laisse pas vaquer à ses absences, à ses humeurs vagabondes. Rappelle-lui ses devoirs avec un mot tendre, une balade vers l'horizon, un geste roudoudou, un rêve violet. Parfois, il suffit d'ouvrir une fenêtre pour la mettre en marche ou de fredonner un air qu'elle a dans son répertoire pour la mettre de bonne humeur. Mais ne bouscule pas la mécanique du bonheur. Elle est hypersensible. Il lui suffit d'un rien, d'un regard de travers pour aller voir ailleurs si tu y es. Pauvre créature qui croise encore à la poésie des machines. Le livre indélébile qui s'efface au toucher. Phrase en exergue. L'univers est une fabrique d'étonnement où je fais la nuit des heures sup. On écrit l'éphémère avec de l'encre sympathique et il passe comme une lettre à la poste. Pour écrire l'amour, on utilise l'encre cosmique car on peut à tout moment revenir les pieds sur terre. Pour rédiger sa biographie, il faut mouiller sa plume dans les blessures profondes et laisser parler le sang. Si on n'a pas de blessures profondes, ce n'est pas la peine de se couper les veines pour réussir sa vie de papier. Le vin rouge et le ketchup peuvent aussi bien te faire vivre dans une bibliothèque parmi les livres de cuisine et de bien-être. Car aujourd'hui, la ligne de démarcation entre la littérature et les saucissons est un souvenir périmé. Si tu veux avoir une chance toute petite, il est vrai, de voler au-delà des couvertures, il vaut mieux faire entre les pages de ton existence un élevage de moineaux.
Nous étions toujours avec Eric Satie. Il s'agissait plus précisément de sa première gnossienne. Et peut-être avez-vous été surpris de ne pas entendre le piano cette fois. Effectivement, c'était un accordéoniste italo-allemand, considéré comme un pionnier dans l'interprétation contemporaine de l'accordéon, qui s'appelle Teodoro Anzelotti et qui a enregistré ce très joli album en 1998.
Donneur d'organes. Ne pas s'apitoyer sur son sort, ne pas attendre d'être mort pour donner ses rêves et son corps. Devenir fidèle aux vies parallèles, passer les nuits avec les hirondelles. Le prix Nobel de l'amitié. La nuit s'est volatilisée depuis belle lurette dans les vapeurs du café. Pourtant les fantômes sont toujours là, à partager avec moi les particules irréversibles de l'existence. Les nouvelles arrivent et repartent en fumée, mais les fantômes demeurent imperturbables. J'ai trouvé enfin des amis fidèles qui font fi des lois, des identités, de la mélancolie. Ils se moquent gentiment même de l'amour qui s'est assoupi sur le canapé en lisant Modiano. Dracula et les poissons de lune. En exergue, se venger, c'est blesser la nuit. Nous sommes une peuplade de vampires, toujours assoiffés de sang. Si nous étions un peuple végétal, comme nous voyait une poétesse, nous préférerions le jus de tomate. J'élève sur la lune les petits poissons doux de l'anormalité. Ils sont à sang-froid, inconnus au bataillon de Mendeleïev. Ils n'aiment pas les hématies, ils pratiquent le sexe équitable et ils ont éliminé de leur régime lunatique la peine de haine. L'armoire à rêves n'a pas de porte. Phrase en exergue. Autant d'amour perdu en mer que de brouillard doux et amer. Au bout des rues, sur les sentiers qui mènent nulle part, dans les impasses de tous les jours, je ramasse des nuages paumés, sans domicile fixe, sortis du cadre de vie. Je les recueille comme des preuves de chair, car le monde vivant est régi par des règles de carton. Et maintenant, mes nuages orphelins sont dépliés dans l'armoire et sentent bon les phéromones. Cherchez bien. On trouve toujours dans l'océan biographique une vague de consolation. Alors, prenez-la dans les bras et coquifiez profond cette réalité pathétique qui nous insulte les sens, cette réalité qui quantifie le songe et légifère le vent au bénéfice des calories fabriquées à la chaîne sur l'échelle de Darwin.
Voici une dernière série de 4 poèmes sur un air de Satie que vous connaissez sans doute, la première gymnopédie, toujours interprétée à l'accordéon par Teodoro Anzelotti.
L'oubli. Tu te dis, la vieillesse est trop loin, je ne crois pas aller jusque-là. Faute de visa, de globules jaunes, de moyens de locomotion, de fantaisie. Et puis un bon jour, hop, tu te trouves nez à nez avec elle. Et vous vous regardez, hypnotisé et pâle, comme si vous veniez d'avaler une famille de couleuvres. Comme si le temps vous avait abandonné sur un drap blanc noué au bout, sur lequel vous allez glisser tous les deux, quand vous vous évaderez de la prison biographique. Ceux qui réussissent ne sont rien. Aujourd'hui, au marché aux fleurs, un très vieux couple que l'âge n'a pas épargné. Visage creusé, dos courbé, mouvement timide, approximatif. L'un qui s'accroche à l'autre pour marcher. Lui, un tout petit bouquet de roses à la main qu'il montre à sa compagne, en souriant, en chuchotant quelque chose que je n'entends pas. Et elle, dont le visage s'illumine, qui lui rend le sourire. Et tout à coup, la place des fleurs devient humaine, chaleureuse. Il y a tant de tendresse complice dans leur regard. Il y a tant de douceur, de bonheur simple entre ces deux êtres si fragiles qu'à côté, le monde n'est plus qu'un tas mesquin d'immondices. Finalement, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui réussissent, mais ceux qui ont de la lumière à partager. Ne demande pas la lune à un poète, il serait capable de te la donner, même si elle fait partie de son système immunitaire. Le poète couche avec toutes les étoiles filantes, sans distinction de nationalité, sexe ou religion, pour leur donner encore un peu l'illusion de la vie avant qu'elle ne s'éteigne. Le poète est appelé au chevet de la ville qui a chuté dans l'escalier par cupidité et médiocrité pour lui faire des transfusions de sang et d'imagination. Le poète coud avec du fil d'amour les trous du ciel pour nous réparer la couche d'ozone et nous ouvrir les yeux au-delà de la ligne de l'horizon. Pour le ressusciter, le poète fait du bouche-à-bouche au pays qui a perdu le Nord à cause de l'imposture politique et de la dictature de l'argent. Mais quand il s'agit de lui accorder un droit, un bon mot, une sépulture, le poète est toujours sur la liste d'attente, à côté des feuilles mortes, et des espèces disparues.
Je vous propose maintenant d'entendre d'autres poètes roumains, ceux que Radu Bata a réunis dans ce qu'il appelle une anthologie imprévue, composée de traductions inopinées. Depuis une trentaine d'années, la poésie roumaine, qui avait été muselée sous le régime de Ceaușescu, comme toutes les formes artistiques, s'est libérée de la censure qui pesait sur elle et a éclaté dans des directions très diverses. Un éventail que Jean-Pierre Longre, dans la préface de l'ouvrage, présente ainsi. Des gestes quotidiens aux visions fantastiques, de l'attente à la résignation, de la résignation au pessimisme, du silence éloquent à la parole légère, les textes choisis par Radu Bata ouvrent des passages étroits et infinis, jamais obscurs, toujours à taille humaine. Des tableaux insolites, étranges, voire surréalistes, au vrai sens du terme, parfois impressionnistes, toujours au vrai sens, d'où ne sont pas exclus les sourires de l'humour et les éclats de la vie heureuse. Certains de ces auteurs sont des valeurs sûres, c'est le cas par exemple de Nikita Stănescu, 1933-1983. D'autres sont moins connus. L'anthologie commence par cette formule que Radu Bata a écrite en exergue. L'esprit du prophète hante l'univers, le cœur du poète nourrit les vers. Une formule qui introduit on ne peut mieux le texte de Stănescu que voici.
Art poétique. Si le poète se décourageait, les feuilles des arbres tomberaient par terre et les branches resteraient figées comme des potences. Si le poète se décourageait, les femmes enceintes perdraient leur bébé et ne pourraient plus jamais mettre au monde un enfant. Mais parce qu'il est touché par la grâce et le souci des autres, le poète meurt toujours avant de se décourager.
Un second texte du même auteur, très court celui-là, mais très suggestif.
Si un jour j'arrivais à t'attraper et à embrasser la plante de ton pied, dis-moi si tu ne boiterais pas un peu après de peur d'écraser mon baiser.
Anna Blandiana, née en 1942, est également une figure reconnue en Roumanie, essentiellement grâce à ses œuvres poétiques, mais elle est aussi journaliste, essayiste et autrice de littérature de jeunesse. Deux de ses poèmes apparaissent dans l'anthologie de Radu Bata.
Je crois que nous sommes un peuple végétal. Comment expliquer autrement le silence dans lequel nous attendons les feuillages? D'où vient le courage de glisser sur le toboggan du sommeil jusqu'au tunnel de l'au-delà avec la certitude que nous serons capables de renaître? Je crois que nous sommes un peuple végétal. Qui a jamais vu un arbre s'insurger? Fatigué. Je suis fatigué de naître d'une idée. Je suis fatigué de ne pas mourir. J'ai choisi une feuille. Voici, c'est d'elle que je vais naître, à son image et à sa ressemblance. Sa sève fraîche va m'envahir doucement et ses nervures seront mes tendres reliques. Elle m'apprendra à trembler, à grandir, à briller dans la peine, puis à me détacher de la branche comme un mot quitte les lèvres. De cette façon simple, enfantine, dont on meurt chez les feuilles.
Et puis j'ai trouvé aussi sur Internet un autre texte d'elle que j'aime bien et qui est dans la même veine que les deux précédents, puisque là encore il est question d'arbres.
Autrefois, les arbres avaient des yeux. Je jure, je sais bien que je voyais lorsque j'étais un arbre. Je me souviens combien m'étonnaient les étranges ailes des oiseaux qui me passaient devant, mais je ne me souviens plus si les oiseaux devinaient mes yeux. En vain, je cherche maintenant les yeux des arbres. Je ne les vois peut-être pas parce qu'arbre je ne suis plus. Ou bien sont-ils descendus sur les racines, dans la terre? Ou peut-être, qui sait, ce ne fut qu'une illusion et les arbres sont aveugles depuis toujours? Mais alors, pourquoi donc, lorsque je passe tout près d'eux, je les sens me suivre du regard, un regard bien connu? Pourquoi, lorsqu'ils frémissent et clignent de leurs milliers de paupières, j'ai envie de crier « Qu'avez-vous vu ?»
Encore une pièce de Satie à l'accordéon, celle-ci s'appelle « La valse des pantins ». Julian Tanasé apparaît à plusieurs reprises dans cette anthologie. C'est un auteur né en 1973, diplômé en sciences économiques et en philosophie. Outre son activité de poète, il est aussi rédacteur en chef de deux magazines satiriques et programmateur de radio. Voici quatre poèmes de lui avec un ton qui rappelle celui des surréalistes.
Sept silences et une attente. On peut se taire en étreignant un nuage dans ses bras. On peut se taire, le front appuyé sur une montagne d'air. On peut se taire à l'intérieur du chiffre 5. On peut se taire par amour pour les mots qu'on refuse de prononcer. On peut se taire comme si on faisait une révérence aux mots du futur. On peut se taire en s'enfermant soi-même à plusieurs tours de cadenas. Il y a des araignées qui pratiquent l'attente jusqu'à la toile de Pénélope. On peut se taire en enfermant de l'intérieur tous les mots qui nous habitent. Palimpseste. Nous étions, on eût dit, les prisonniers d'une digitation luxuriante. Nos paumes s'unissaient sans pudeur à la vue de tous. Nos doigts s'enchaînaient, faisaient l'amour et devenaient gros, doigts enceints avec empreintes bombées qui, après un temps, accouchaient de petites paumes siamoises de couleur rose que nous tenions avec affection dans nos paumes réglementaires. Et les petites paumes tombaient amoureuses à leur tour, s'accouplaient, devenaient grosses et après elles accouchaient de paumes siamoises encore plus petites, avec des doigts fins qui s'unissaient, devenaient enceints et accouchaient d'empreintes jumelles parfaitement identiques avec lesquelles nous nous sommes tatoués toutes les paumes et toutes les chairs du corps pour nous reconnaître, même la nuit. Nous nous serrions les mains tellement fort que l'amour ne pouvait pas nous filer entre les doigts. Thank you. les 400 coups et l'arithmétique du cœur. Quand on naît, quelqu'un nous attend à la sortie du tunnel en déroulant le tapis rouge et nous dit parmi ses dents de barbe à papa « Prenez chacun 3 milliards de battements de cœur, cachez-les dans la poche de la poitrine, faites-en bon usage, il n'y en aura pas d'autre. » Puis, ça se passe dans une autre spirale. Je rêve que mon cœur bat des mains et des pieds. Je regarde terrifié les battements qui courent comme un train fou sur un champ ensoleillé, sur un champ ensanglanté. Alors, je vais voir mon cœur le supplier de battre moins vite. Je me mets à genoux devant lui. Je lui dis « Bats plus délicatement, s'il te plaît. Où vas-tu comme ça? Ne t'emballe pas. Je ne voudrais pas que tout s'arrête bientôt. Vas-y doucement, ne prends plus le mort aux dents. Tu ne vois pas dans quelle situation tu me mets. Je ne voudrais pas que tout s'arrête bientôt. Je viens à peine de le trouver. Je lui dis « Regarde, il dort comme un enfant dans ma poitrine. Vas-y doucement, s'il te plaît. » Le poème des naufrages faciles. Il y a beaucoup de temps dans nos vers si profonds. Nous en buvons comme si on buvait les heures échouées au fond de l'océan. Nous buvons dans nos vers profonds et le temps nous monte à la tête. Par nos veines ouvertes, nage d'étranges secondes. Les secondes s'emboîtent dans un cri liquide et limpide. Le cri nous fend le cerveau à la vitesse de la lumière, peut-être même pire. Depuis des jours et des jours, nous restons ici à boire dans ces vers plus profonds que la mer. Nous restons ici et nous nous enivrons avec du temps. Nos veines restent ouvertes jusqu'au dernier client. On est revenu au piano cette fois et c'est Jean-Noël Barbier que j'avais oublié de citer précédemment et qui joue ici la cinquième gnossienne d'Éric Satie. Dans la jeune génération des poètes roumains, j'ai aussi retenu deux poèmes de Petronella Rotar.
Job 2.0. Pendant mon temps libre, je suis soigneuse d'ego. C'est un travail dur, extrêmement mal payé. Je me suis spécialisée dans le soin des égos masculins. Ce sont eux qui se dégonflent plus vite et nécessitent des rechappages successifs. J'ai acquis des techniques efficaces. Par exemple, quand je les prends par la main et les promène dans la foule, les hommes deviennent soudain beaucoup plus grands. Leur ventre disparaît, leur dos se dresse, leurs épaules s'élargissent. Et le pénis, oh, n'en parlons plus, il croît infiniment, il arrive jusqu'à la lune. Les plus malades d'entre eux ont besoin de traitements permanents au lit, jour et nuit. Semaines entières de veille, de sueur, de corvée. Mais ça vaut la peine, car après quelques mois, ils se rétablissent complètement et disparaissent subitement. Alors moi, je reçois en cadeau un diplôme sur lequel est écrit en majuscule « Félicitations, l'ego a été réinstallé avec succès. » Faille temporelle. Il est encore temps de freiner avant les clous, de voir ses cheveux blanchir, de poursuivre les études et d'obtenir un nouveau diplôme, peut-être même un doctorat. Il est encore temps pour la promenade du soir,
pour le sommeil de beauté, pour les préparatifs d'hiver, pour écrire au moins 2 poèmes et 2 solitudes. Il est encore temps de devenir pauvre comme Job, ou d'épargner de l'argent pour payer les factures, acheter des fringues ou des loisirs compulsivement, d'oublier plusieurs fois le même être, de t'oublier, toi, de regarder en toi, de te chercher, de te pardonner, ou de prétendre jusqu'à la fin que tout va bien, oh oui, tout va bien. Et puis, il est temps, il est grand temps de comprendre que tout ce qui te reste est juste cet instant de maintenant, et la douceur, et la douceur.
Pour terminer ce florilège roumain, je vous propose de revenir à Radu Bata, qui a choisi de placer quelques-uns de ses textes à lui au milieu de ceux des autres. Et c'est une façon de terminer dans la légèreté. On en a bien besoin en ce moment, où tout est si grave autour de nous qu'on peine à entrevoir une lueur d'espoir. Alors, raison de plus pour se laisser charmer par les mots des poètes.
Pornographie avec les nuages. Les ombres couchaient avec le premier venu. La guitare de Bonamassa faisait l'amour à une école de filles. Vénus s'effeuillait en vidéo chat, Saturne lui envoyait des anneaux brûlants, et moi, je nageais comme d'habitude dans le dictionnaire, cherchant la bouée de sauvetage dans le mot « amour ». Entre les cuisses de la nature. Je me suis promenée hier dans le ciel avec un nuage qui avait la forme d'un bateau et se déplaçait comme un éléphant qui se prend pour un cerf-volant. L'azur m'entourait comme une fée et je n'ai pas vu le temps passer. Cependant, le président américain a lâché un tweet qui empestait jusque dans la Corée du Nord et le monde en a fait une jaunisse ou une grève japonaise. Le président hexagonal a jeté un mot à la figure des petites gens afin de les habiller pour l'hiver. Mais moi, je n'ai rien su. Car là-haut, les nouvelles passent mal. On est loin du PIB et des pourcentages de caca nerveux par habitant. On est loin des calculs d'enrichissement des uns contre les autres. Et qu'est-ce qu'on s'en fout, là-haut, des machines à mensonges ? Ou du prix pour lequel les hommes redeviennent singes. Aujourd'hui, j'ai regardé pendant des heures l'ombre des libellules reflétées dans l'eau d'un étang. Leur danse était plus hypnotisante que les ombres chinoises d'une geisha, et je n'ai pas vu le temps passer. Le jour ressemblait comme 2 gouttes d'eau aux autres, sauf qu'il faisait nuit. Ah, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est déjà demain. L'eau est chaude pour cette saison improbable. J'ai dépassé la balise et ma date de péremption sans m'en rendre compte. Comme un poisson qui n'a rien à faire du calendrier, mais tombe si éperdument amoureux d'une libellule qu'il prend son envol.
C'était une dernière gnossienne de Satie pour la route, un air que le compositeur recommande de jouer avec étonnement. Eh bien, je vous souhaite à vous aussi de continuer, malgré tout, à vous étonner, soit en regardant la libellule, comme Radu Bata, soit par tout autre moyen à votre convenance qui vous permette d'oublier pour un temps la sinistrose ambiante. Au plaisir de vous retrouver bientôt, le jeudi 17 décembre prochain. Et naturellement, si vous trouvez le temps un peu long chez vous au coin du feu, vous pouvez toujours réécouter mes émissions sur le site de Radio B. Ciao a tutti.